les gens comme moi, ils sont curieux, mais de plein de choses différentes et pas forcément d'histoire. Les gens comme moi, ils aiment beaucoup l'histoire et les histoires, mais ils savent pas forcément les raconter. Les gens comme moi, ils aiment bien être dehors, même si être historien, ça implique aussi d'être beaucoup à l'intérieur, mais les gens comme moi, ils aiment bien voyager dans l'espace et dans le temps. Les gens comme moi, ils aiment bien faire des choses, fabriquer des choses, même si les gens comme moi, ils se sentent pas toujours capables de les faire. Voilà.
Alors, les gens comme moi adorent danser, adorent écouter de la musique, chanter super fort dessus et avoir des émotions fortes seuls dans un appartement ou même dans la nature parfois ou sur mon vélo. Les gens comme moi adorent les animaux, que ce soit les chiens comme la petite chienne que j'ai sur les genoux ou alors tout type d'animaux, même des insectes, tout ce qui est vivant en fait. Ouais, et les gens comme moi, ils aiment aussi le contact et tout ce qui... Ouais, tout ce qui établit une connexion avec les gens, avec d'autres personnes, mais aussi avec, comme je disais, avec d'autres espèces, avec le vivant, avec ouais, les arbres, voilà.
Haha, je vous ai bien eu. Aujourd'hui, dans Du Poil Sous les Bras, il n'y a pas une, mais deux invités. Bienvenue donc dans une émission un peu particulière, puisque j'ai eu envie de mettre en parallèle deux sujets qui se rejoignent et se font écho, et deux invités qui, si elles ne se connaissent pas, partagent, je crois, une grande partie de leur vision du monde. Un monde qu'elles voudraient plus juste, plus durable, moins oppressif. Alors on va prendre les choses dans l'ordre et commencer avec la première invitée de cette heure que nous allons passer ensemble.
Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Pérez-Tisserand et je suis historienne. J'enseigne et je fais des recherches à l'université Toulouse-Jean Jaurès sur l'histoire du 19e siècle, de l'Amérique du Nord et de l'Europe aussi. Je suis spécialisée sur l'histoire de la Californie au début du 19e siècle, donc c'est de Zorro à la rue et vers l'or. Et par ailleurs, ça me tient à cœur que les savoirs que j'ai la chance de pouvoir collecter dans mon métier, de pouvoir en parler avec le plus de monde possible, que ce soit des étudiants ou d'autres gens, et que tous ces savoirs-là, que nous autres historiens en collecte, ils puissent être partagés dans toute la société.
Alors ça tombe bien, parce que moi aussi, mon dada, c'est de partager des savoirs. Un savoir qui reste dans une tour d'ivoire, pour quelques universitaires, ça ne sert à rien, ou presque. Les connaissances, ça se partage. Et particulièrement en ce moment, nous avons besoin des connaissances que nous apporte la science. La science qui comprend toutes les sciences. Et c'est extrêmement important de replacer les connaissances issues de la science dans le débat. Aux États-Unis, mais aussi en Europe et ailleurs, la science est attaquée. Attaquée parce qu'elle cherche à produire une description du réel, mais aussi parce que c'est une entreprise collective, peut-on lire dans le livre qu'Emmanuelle Pérez-Tisserand a coécrit avec Tamara Benhari et Olivier Bernet. Un livre intitulé « Le moment orwellien, la science face aux nouveaux obscurantismes », un livre qui paraîtra aux éditions du Seuil à la fin du mois, ou qui est déjà paru si vous écoutez cette émission après le mois de février 2026. Un livre essentiel pour décrypter ce qui se joue autour de la destitution des savoirs. Un exemple frappant aux États-Unis, par exemple, c'est la destruction de documents et de pans entiers de savoirs et de connaissances. Nous assistons à un moment politique dans lequel un régime démocratique glisse vers un autoritarisme assumé au nom même de la liberté, peut-on lire. Pour tisser collectivement les voies d'une résistance possible, il faut comprendre les mécanismes qui amènent à l'autoritarisme et en percevoir les premiers signaux déjà très présents en France pour pouvoir résister dès les prémices. Quand certains mettent sur le même plan science et opinion, quand les mots perdent leur sens, quand la réalité est niée, c'est que la démocratie est déjà bien mal en point. Alors, faut-il que plus rien n'ait de sens pour que tout ait un sens? Oui, réécoutez cette phrase, c'est du double think, médiocre certes, mais je ne maîtrise pas bien la manipulation mentale, beaucoup moins bien en tout cas que Big Brother dans 1984 de Orwell, une fiction d'anticipation à l'époque, mais qui devient réalité sous nos yeux. Alors défendons la science et la connaissance sans plus attendre dans Du Poil Sous les Bras.
La petite blanche dans Du Poil Sous les Bras.
On a appelé le livre Le Moment Orwellien parce que Je pense qu'on n'était pas les seuls, du reste, mais à partager cette impression que on était en train de vivre quelque chose qui ressemblait au roman 1984 d'Orwell. Et donc dans ce livre, on est dans une espèce de dystopie dans laquelle les dirigeants politiques coupent la population de tout rapport à la réalité. Donc il y a une médiation du rapport à la réalité qui fait que on est obligé en quelque sorte de suivre la parole des dirigeants parce que on n'a pas de savoir, de connaissance de ce qu'on est en train de vivre. Tout est médié par la parole des dirigeants. Il n'y a plus de rapport au savoir. Et en fait, on avait l'impression, notamment avec pendant les mandats Trump et donc en particulier le deuxième, que on avait quelque chose de cet ordre-là qui était en train de se jouer, qu'il était en train de non seulement d'avoir un discours de mensonge et de propagande, ça on l'a déjà vu, mais que en plus en parallèle, il était en train de détruire et de délégitimer les endroits où on développait la construction collective de connaissances sur le passé, sur le présent. Et donc ça s'illustrait dans différents domaines, à la fois le domaine sur lequel moi je travaille qui est l'histoire, mais aussi par exemple sur les sciences du climat, sur la biodiversité, sur la question des identités de genre, la question de l'accès au droit, la question du racisme. Et donc en fait, non seulement on a un discours qui niait ces éléments-là, mais on était en train, avec des attaques très fortes sur le savoir et les universitaires, de détruire les institutions collectives dans lesquelles on pouvait avoir accès à cette réalité.
Dans 1984 de George Orwell, Winston, le personnage principal, est chargé au ministère de la vérité de réécrire l'histoire pour qu'elle convienne à la ligne du pouvoir, un pouvoir personnifié donc par le fameux Big Brother. Et dans cette fiction d'anticipation, cet univers dystopique, Orwell invente des concepts. Il met des mots sur des pratiques du pouvoir que le pouvoir utilise pour manipuler des masses. Le doublethink, le newspeak, la falsification de l'histoire, ces concepts sont les signes annonciateurs d'une dérive vers un régime autoritaire. Winston n'est pas dupe.
Et donc lui est une petite main qui est chargée de faire que ce qu'on trouve dans les sources, et notamment dans les journaux, corresponde au jour le jour au discours de Big Brother. Et donc, en fait, c'est ce concept de la mutabilité du passé ou la falsification qui fait que son travail à lui, c'est d'aller chercher dans les archives. Enfin, il y a tout il y a un peu de technologie qui a donc ça lui arrive automatiquement. Et ils sont plusieurs à travailler là-dessus en concurrence, mais donc son boulot, c'est de réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde au discours politique du moment. Ça correspond à ça, la mutabilité du passé. Et c'est des choses, on le montre dans le livre, qui ont déjà cours actuellement, et on le voit notamment en Russie, en Chine, donc dans des régimes autoritaires. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit aussi en train de se produire aux États-Unis avec Trump ou en Argentine sous Milei, avec une sorte de mécanisme de « on va réussir à réécrire le passé ». On va filtrer, par exemple, les expositions qui ont lieu dans le grand musée qui s'appelle le Smithsonian, et on va enlever certaines choses qui ont existé. Donc il y a cette forme de réécriture qui, en fait, existe déjà. Donc ça, c'est la mutabilité du passé. Et aussi les outils... alors, un qui est peut-être assez connu quand on parle d'Orwell, c'est le newspeak. Parfois en français, dans certaines éditions, on appelle ça le novlangue, mais c'est vrai que ça a pris un sens, finalement, tout langage de jargon administratif en vient à être appelé novlangue. Mais effectivement, c'est un appauvrissement de la langue qui fait que ça réduit le cadre de la pensée. C'est-à-dire qu'on va avoir non seulement une simplification de la langue, donc moins de mots à utiliser, donc le dire noir, on va dire non blanc ou l'inverse, etc. Et ça empêche de penser avec beaucoup de nuances, c'est-à-dire que toute la complexité de la pensée, d'imaginer différentes trajectoires et de jouer avec les mots ne va plus être possible. Et en plus, ça fait qu'il y a une sorte de langue officielle qui s'installe. Donc ça, c'est un instrument... Bon, la langue, on a plein d'exemples historiques où des dirigeants politiques ont modifié la langue et ça permet de modifier des cadres de pensée, des cadres imaginaires, etc. Par exemple, recoder une série de mots. Par exemple, dans le livre, on parle de... de l'excellence, et ça c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup dans la réforme des institutions ou et dans l'université par exemple, mais je suis sûre que voilà, tous les auditeurs, auditrices ont des exemples de ces mots qui ont l'air très bien en l'apparence, excellence, progrès, etc., mais qui en fait, ce que ça veut dire concrètement en termes de transformation de votre qualité de vie ou de votre qualité de travail, est à l'opposé. Par exemple, l'excellence à l'université, ça va être la mise en concurrence, le fait de devoir faire des appels à projets de plus en plus chers et donc de passer de plus en plus de temps à gérer de l'argent ou à déposer des projets de recherche plutôt qu'à faire de la recherche de qualité que nous, on appellerait excellente. On parle aussi de l'autonomie, par exemple. Donc, on nous dit, les universités sont autonomes, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, prendre vos propres décisions, et en fait, on nous donne pas d'autonomie budgétaire, par exemple. Donc, c'est comment est-ce que le sens des mots est perverti pour en faire un outil de domination et nous imposer et légitimer un certain nombre de changements. Et donc, dans Orwell, ça va être encore plus loin, mais notamment grâce à ce troisième outil qui est le double think, qui est cette idée d'avoir deux idées contradictoires en même temps. Et donc, ça rejoint cette idée de l'excellence et de l'autonomie, c'est-à-dire que on nous fait penser, on pense qu'on pense quelque chose, mais en fait, on pense son inverse et ça perturbe complètement la pensée. C'est une sorte de méthode de manipulation, en quelque sorte.
Les fameuses phrases du double think, c'est par exemple « War is peace », la guerre, c'est la paix. « Freedom is slavery », la liberté, c'est l'esclavage. Le double think, c'est la faculté d'être OK avec deux croyances complètement contradictoires, mais d'être persuadé que tout ça est tout à fait possible. Alors comment se prémunir? Comment savoir si ce qu'on pense, ce qu'on lit ou ce qu'on nous dit est vrai? Comment éviter de penser que justement la guerre, c'est la paix?
Ah oui, c'est ça la grande difficulté. Et effectivement, quand on parle de chaîne d'information concernant CNews, on est déjà dans ce monde orwellien. En fait, une des choses qui est importante, c'est ce qu'on essaye d'apprendre et de partager, de travailler dans nos cours universitaires, mais on peut le faire tous à notre niveau, c'est d'essayer de comprendre que l'information ne tombe pas du ciel, en fait, que l'information n'est pas quelque chose qui existe en soi, c'est quelque chose qui est construit. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on voit est faux, c'est-à-dire prendre conscience du cheminement, de comment une information devient une information, et que notamment la manière dont on raconte une histoire, que ce soit dans un livre, que ce soit aux informations, elle est construite à partir de sources, de documentation, d'interviews, et que tout ça est choisi. Et qu'en fonction des personnes qu'on choisit pour raconter leur histoire, est-ce qu'on donne le micro à des chefs d'entreprise qui ont un intérêt à cela, ou est-ce qu'on donne le micro à un agriculteur, une agricultrice, une éleveuse, un éleveur, ou un étudiant, une étudiante, un universitaire? On va avoir des récits différents. Ça ne veut pas dire que c'est de la manipulation. Il faut juste avoir conscience de comment cette histoire elle est construite, à partir de quelles sources, quels choix ont été faits, et d'arriver à comprendre, non pas de se méfier de tout, mais d'essayer de comprendre le mécanisme qui fait que cette histoire-là a été écrite et nous est proposée. Et après, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que les témoignages qu'on peut entendre, ils viennent d'un certain endroit, de certaines personnes, qui partagent une réalité qui est la leur, et ensuite en faire quelque chose de soi. Mais du coup, ne pas la prendre tout cru, en quelque sorte, et effectivement de sélectionner, en tout cas d'avoir conscience de ces sources d'information, de savoir qu'un certain nombre des médias et de l'édition en France sont dominés par un grand groupe, par Bolloré, voilà, et pas seulement, et que ça a forcément des effets sur l'information et le fait que certaines informations sont répercutées ici ou ailleurs. Et la raison pour laquelle on a écrit ce livre, c'est qu'on pense que il y a un travail, une activité scientifique à laquelle on consacre collectivement des ressources. On a une recherche publique assez forte qui est attaquée aussi en France, mais on consacre collectivement des ressources payer le salaire de gens qui vont élaborer ce rapport aux faits avec une méthode scientifique, c'est-à-dire avoir une méthode de choisir ses sources, avoir une méthode pour poser des questions, poser des problèmes, et croiser ces informations. On est aussi, on se relie collectivement, donc c'est un travail qui est collectif d'élaboration des savoirs, qui effectivement peut évoluer. Et on a vu plein d'évolutions et même voilà des théories qui restent des théories jusqu'à ce qu'elles soient avancées par d'autres découvertes. Mais globalement, il y a des faits et des consensus scientifiques, qu'ils soient en histoire ou en sciences du climat, par exemple. Et donc, pour mon domaine historique, il est avéré que les États-Unis se sont construits en large partie sur l'esclavagisme et sur le colonialisme. Et ça, c'est un fait avéré. Après, on peut discuter sur les intentions, sur des éléments plus subtils. On peut avancer dans cette connaissance et sur l'articulation causale. Mais ça, c'est un fait. Et c'est un fait qu'actuellement, le gouvernement Trump et les électeurs de Trump ne veulent pas entendre et veulent modifier. Mais c'est quelque chose qui s'est produit. Effectivement, ça convient pas à un discours positif du roman national. Mais en fait, ce sont des faits scientifiques. C'est comme le réchauffement climatique, c'est avéré par le rapport du GIEC et l'origine humaine du réchauffement climatique, surtout.
La science, c'est du travail d'abord, me dit Emmanuel Pérez-Tisserand. C'est une éthique aussi, et c'est du temps, le temps long, le temps nécessaire à la production de connaissances, à la recherche. Et comme elle vient de le rappeler, c'est aussi du collectif. On parle de consensus scientifique. Ce consensus est amené à évoluer, car la science est ancrée dans la société et va se nourrir continuellement. Mais quand vous voyez un gouvernement nier un consensus scientifique pour faire passer ses idées, c'est dangereux. Il met alors en place une stratégie pour délégitimer la science, l'affaiblir, organiser le doute. Par exemple, quand le gouvernement français veut imposer la loi Duplomb, il va d'abord produire des réalités alternatives, contester la validité des données et des méthodes de recherche, relativiser des résultats. C'est de la manipulation. Le gouvernement disqualifie des données scientifiques au profit d'intérêts économiques de certains. Le vote de la loi Duplomb, c'était un moment orwellien, ou peut-être pré-orwellien. En tout cas, en France aussi, le gouvernement s'attaque petit à petit, assez rapidement même, aux équipes de recherche, aux universitaires, à celles et ceux qui produisent des savoirs scientifiques.
On a quand même un discours de délégitimation de l'université et de la recherche publique à laquelle on assiste depuis quelques années. Ça peut prendre la forme assez rébarbative et qui peut sembler ne concerner que les universités ou les chercheurs, chercheuses, on va changer votre statut ou on va donner de l'autonomie aux universités. Donc c'est un discours qui est peu compréhensible quand on est loin un peu de ces sphères-là, de ces enjeux. Mais en fait, là où c'est important, c'est d'expliquer que comme pour toutes celles et ceux qui travaillent, les conditions de travail d'exercice des universités et leur autonomie, mais au sens pas autonomie budgétaire, mais autonomie de travail et être en dehors de dépendance, garantit justement notre indépendance et la qualité de ce qu'on va faire. Et que si on a une ingérence politique et que tout d'un coup un discours politique nous dit qu'est-ce qu'on doit chercher ou pas chercher, ça déjà ça met en péril notre mission d'effectivement développer nos connaissances scientifiques, nos connaissances sur le monde et d'être en fait une sorte de conseillère non pas seulement des politiques mais de la société pour savoir sur quoi on peut se baser pour aller de l'avant. Et en fait ce qu'on a constaté, c'est des ministres qui, sans connaître du tout ce qu'on fait, ce sur quoi on travaille, décrètent que tout d'un coup, il y a de l'islamo-gauchisme à l'université, que en fait, on est des chercheurs qui cherchent pas vraiment. Donc, tout un tas de discours de délégitimation. Donc ça, c'est le discours, mais il y a aussi des politiques de réduction de nos moyens de travail, de, comme je disais tout à l'heure, d'augmentation de nos tâches qui enlèvent du sens à ce qu'on fait, aussi réduction des moyens, ce qui fait que on est moins nombreux devant les étudiants, ce qui est quand même une de nos tâches de courroie de transmission entre ce qu'on les recherches qu'on fait, les connaissances qu'on a et les jeunes générations. Et donc, quand on est moins nombreux face à plus d'étudiants, on fait moins bien notre travail. Et donc, toutes ces réformes structurelles, pour revenir un petit peu à ce moment pré-orwellien, sont des conditions dans lesquelles on va délégitimer aux yeux du reste de la population ce qu'on fait en le dénigrant, on nous enlève la qualité des conditions de travail qui permet qu'on le fasse bien, et du coup ça conduit à un désaveu, un abandon, dire bah finalement les universités publiques, à quoi bon, et on va ne plus exister par cette force des choses, quoi. Long time coming to right now, pipe down, lifetime looking for things I thought I'd found already. Falling to the floor like I'm alright, I'm steady. Set myself back so I can tell me 20 years deep in the rhymes and beats, and I'm still so far from finding peace. Every line is a ladder I can climb through time, and I walk straight face through these winding streets. I eat the bread of rhythm, I drink the milk of rhyme. I've been carrying a bag of shame that's bigger than me, dragging it behind me, up and in the staircase until the day I realize this doesn't mean what I think it does. I don't need to carry this forever. I left it in the clearing by the fire pit and ran back to the child I was, looking for an elder. I saw myself there, I took myself by the hand. When I was young, I sought help from my older self. I came into my head, I told me know yourself. When I was young, I sought help from my older self. I came into my head, I told me know yourself. I was 17, heaven seemed close enough to touch. I had never been happier, chest against the barrier, watching Wu-Tang, my own character starting to bloom. I was learning how to capture a room in two phrases, 20 years deep in the rhymes and beats. Close my eyes and speak down the wires of time. I go back to the child I was when I put myself on the line. I had to beg for the mic, I had to deal with the ignorance, I had to get better, I wanted bigger things. Well, these days, those days, they are far away. Try and catch them in my sights, but they start to fade. Now I sit amongst crate loads of rhyme books, and I think about the days that the time took. I thank the little me that put the work in. Like, could you picture me when you were spitting 16s, surfing the top deck, penning in bars, underage in the clubs, taking charge of the mic, precocious little nothing with the world in your sights. I am on it now, I will work harder. This is peace to the kid I came after.
Peace to the kid I came after.
The words are the bridge between the present and the past. I know myself.
When I was young, I sought help from my older self.
I came into my head, I told me know yourself. When I was young, I sought help from my older self. I came into my head, I told me know yourself. Know yourself. Know yourself.
Soon, child, you were gonna find release.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
À force d'épuiser les universitaires avec des controverses pour détourner l'attention, avec des fausses polémiques pour nous faire peur, eh bien on finit par se dire que penser devient un délit. La peur s'installe. C'est cette peur qui est un des instruments majeurs des totalitarismes. Les professeurs sont par exemple vite accusés d'être des militants, comme si la neutralité était une exigence du travail scientifique, alors qu'il n'en est rien. La science est une construction sociale. Il n'y a pas de vérité objective. La science est le résultat d'un ensemble de pratiques. Et une théorie scientifique est une production collective qui n'est ni neutre, ni rationnelle, ni indépendante du contexte. Je vous renvoie au livre « Le moment orwellien » pour en savoir plus. Et puis pour saisir qu'être militant n'empêche pas de faire correctement son travail scientifique, qui est après tout ce qu'on demande à un scientifique. Même si faire bien son boulot de recherche est aujourd'hui de plus en plus dur, car le gouvernement supprime petit à petit les conditions nécessaires à un exercice universitaire correct, comme par exemple avec la généralisation des appels à projets.
Alors voilà, en fait, c'est une manière de nous domestiquer, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est une manière de dire on ne va pas vous donner de l'argent pérenne et on ne va pas vous faire confiance pour développer les recherches que vous, en tant que chercheuses et chercheurs, collectivement, vous allez vous dire c'est ici qu'il faut qu'on mette de l'énergie, etc. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, de milieux qui ne sont pas forcément de la recherche et qui peuvent correspondre à une commande politique. Et qui oriente fortement, donc c'est pas de la recherche appliquée, mais en tout cas c'est des domaines prioritaires. Et en fait, il y a des dossiers assez non seulement longs à remplir, mais aussi qui ne correspondent pas à la manière dont fonctionne la recherche. C'est-à-dire que ça va être adapté de logiques de projet qu'on trouve dans l'entreprise pour des choses très concrètes et qui sont très bien et qui fonctionnent sans doute très bien dans l'entreprise pour savoir quels seront les livrables, sur quel calendrier, avec des chronogrammes, etc. Des tas de choses un peu barbares, mais d'une part sur lesquelles on n'a pas forcément été formé, donc ça nous demande voilà d'apprendre à le faire, pourquoi pas, mais surtout ils ne correspondent absolument pas, c'est-à-dire qu'on nous demande un peu à l'avance ce qu'on va trouver, alors que le principe de la recherche c'est que c'est on va construire nos questionnements, faire se dérouler alors soit des expériences si on est dans des sciences expérimentales, soit voilà quelle collecte de sources, comment est-ce qu'on va réagir, etc. Et donc on peut pas vraiment donner à l'avance les résultats qu'on va avoir. Et donc en fait c'est des fonctionnements qui sont extrêmement différents. Et donc il y a une dynamique de commande, c'est-à-dire bah on va nous dire ce sur quoi il faut orienter les recherches. On donne l'exemple un peu amer de ce collègue qui travaillait sur les coronavirus plusieurs années avant le déclenchement de l'épidémie de Covid et qui a jamais obtenu de financement et finalement bah c'est d'autres chercheurs dans d'autres pays qui ont pu publier sur ces questions-là. Et lui, il voyait bien qu'il y avait un intérêt, une urgence à travailler sur ces questions-là, mais ça correspondait pas à la politique du moment. Et donc là, il s'est pas senti écouté et c'était dommage. Et donc voilà, il ironise un peu sur ses appels à projets et donc c'est il rit jaune quoi en quelque sorte. Mais donc voilà, ça correspond à une commande, ça correspond à aussi une manière de domestiquer notre temps, c'est-à-dire qu'au lieu de nous donner les moyens de travailler, on a servi une partie de notre temps à répondre à ces appels à projets dont les résultats sont le taux de réussite est très bas et donc en fait on passe beaucoup de temps à rédiger ces appels à projets sans obtenir les financements qui vont avec. Et donc c'est vrai que on considère que c'est aussi un gaspillage non seulement de nos ressources mais des ressources que collectivement encore une fois c'est de l'argent public. Et donc en fait on estime, on pense et on espère convaincre aussi nos concitoyennes, concitoyens que peut-être il y a une meilleure manière d'utiliser le temps de chercheuses et chercheurs à qui on a fait confiance, qu'on a recruté après un long processus pour essayer d'éviter cette dynamique d'appel à projet qui est une forme de domestication et de gaspillage de notre temps.
Alors, comment faire ? Comment résister ?
Alors, la première chose qu'on se dit dans le livre et qu'on invite tout le monde à faire, c'est effectivement de pas essayer de pas se laisser avoir par la novlangue, par le newspeak, tant qu'il nous reste cette possibilité de rétablir la réalité sur l'usage de certains mots. On prend l'exemple, encore une fois, on parle beaucoup de l'université, mais donc il y a ce programme qui a été appelé Bienvenue en France, qui est le programme d'accueil des étudiants étrangers en France. Et ce programme Bienvenue en France, en fait, ce qu'il fait, c'est de dire on va faire payer les étudiants étrangers qui viennent en France et on va les faire payer plus que les étudiants étudiantes français et c'est aussi une logique de tri, c'est-à-dire qu'effectivement c'est les étudiants étudiantes qui vont pouvoir se permettre de payer cela et donc issus de certaines catégories socio-professionnelles de certains pays etc. qui vont pouvoir se le permettre. Et donc voilà, c'est un exemple qu'on donne on appelle ce programme Bienvenue en France, mais en fait c'est pas bienvenue qu'on est en train de dire, c'est on est en train de dire on va vous trier en fonction des nationalités et des catégories socio-professionnelles désirées.
D'abord, résister à l'appauvrissement de la langue et donc de la pensée, nous dit Emmanuel Pérez-Tisserand, et ne pas se soumettre en avance. Une exigence de lucidité que rappelle Timothy Snyder, un historien américain cité dans le livre « Le moment orwellien ». Je cite d'ailleurs la suite de ce passage « L'obéissance anticipatrice, qui consiste à s'adapter instinctivement à une situation nouvelle sans même y réfléchir, est le premier rouage par lequel s'installe l'autoritarisme. Dans le monde scientifique, refuser l'orthodoxie devient une forme de résistance minimale, mais décisive pour que la recherche ne se transforme pas, comme dans 1984, en un auxiliaire technologique du pouvoir. »
Il y a cette idée d'essayer d'être le plus humaine possible, en fait, dans notre manière de faire notre travail, pour ne pas perdre de vue le sens de ce qu'on fait et faire collectif. Ça nous paraît fondamental, c'est-à-dire que arriver à se parler entre différents secteurs, travailleuses, travailleurs dans la société pour essayer de défendre le sens de ce qu'on fait contre un rouleau compresseur de mise en concurrence ou d'assèchement des moyens. Puis en tant que scientifique de toutes les sciences, qu'elles soient humaines, du vivant, sociales, etc., d'arriver à peut-être mieux transmettre, communiquer comment est-ce que ces connaissances, elles sont pas des choses qui permettent de trier des élites qui sauraient avec des gens qui savent pas, mais comment en fait ces savoirs, ils peuvent tous nous apporter quelque chose et qu'on les met au service, ou en tout cas qu'on espère qu'ils vont éveiller des choses pour prendre des meilleures décisions collectives, en fait, en commun.
Emmanuel Pérez-Tisserand m'a aussi raconté la peur et le silence chez ses collègues américains. L'enjeu des collectifs et de la transmission, c'est de ne pas rester seul avec sa peur, de ne pas rester figé, mais d'agir toujours. Car comme il est rappelé dans le livre, l'inaction, l'allégeance, la peur sont des piliers d'un pouvoir autoritaire. Il faut passer à l'acte. Et pour cela, il faut la force des liens, du collectif et des réseaux de solidarité.
Et on voit très bien, en fait, comment il y a cette logique de « Ah, ben, on s'attaque d'abord aux plus faibles, et puis, en fait, du coup, comme on s'estime un peu plus privilégié, ben, bon, on s'en occupe pas forcément. » Et en fait, là, on voit avec l'accélération qu'on voit progressivement qu'en fait, il faut pas s'estimer protégé par un pouvoir qui veut avoir du pouvoir sur sa population, parce qu'en fait, les plus vulnérables vont être attaqués en premier, mais le tour de chacun viendra, en fait. Et c'est ce qu'on a remarqué aussi, c'est-à-dire que au niveau universitaire, les sciences humaines et sociales sont toujours les premières à attaquer comme étant les moins scientifiques, les plus militantes, etc. Et donc les sciences entre guillemets dures, donc la médecine, l'astrophysique, etc., se sentaient moins touchées. Et en fait, on a vu que au deuxième mandat Trump, toutes les disciplines scientifiques ont été attaquées par l'administration Trump. Et donc Ça revient un peu à cette logique de résistance où faut pas s'estimer protégé et privilégié. C'est vraiment important d'avoir des formes de solidarité envers, dès les premières attaques de principe, en fait, réagir. Et c'est vrai que là, on a vu dans cette répression la montée en puissance, une sorte de thought police, police de la pensée et de police politique qui est ICE, donc la police d'immigration, qui a été envoyée par Trump dans des villes estimé à, donc à majorité démocrate, estimé donc comme des rivales, des ennemis, etc. Donc on a vu, débarquer à Los Angeles notamment avec des énormes mobilisations où ils ont fait des rafles dans des quartiers avec du profilage, etc. C'est aussi un endroit d'expérimentation de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale. Donc c'est vraiment des choses qui sont effrayantes dans une démocratie, ailleurs aussi, mais qu'on ne pensait pas avoir dans une démocratie. Et finalement, là, en janvier 2026, on voit que ICE a commis des meurtres, c'est-à-dire à exécuter à bout portant des citoyens américains qui étaient présents à des manifestations et des mobilisations pour essayer de limiter ces rafles de cette police. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très préoccupant, mais qui nous enseigne aussi qu'il faut pas céder sur les principes et pas penser qu'on peut être protégé. Et en fait, dès qu'il y a les premières attaques, se mobiliser collectivement avant qu'il soit trop tard.
Emmanuel Pérez-Tisserand fait partie de ces personnes, ces scientifiques, qui élaborent des savoirs qui ne servent pas à la domination, mais bien au contraire à l'émancipation et à construire une société plus juste. Alors n'ayons pas peur, ni des scientifiques, ni des savoirs scientifiques. Ils sont nécessaires pour établir une société plus humaine, comme le disait Emmanuel Pérez-Tisserand. Allez, continuons notre discussion avec une nouvelle invitée.
Bonjour, je m'appelle Emilia Roig, je suis autrice de livres et je me passionne pour toutes les questions qui ont trait à la justice, à un monde meilleur en fait, dans le plus grand sens du terme. Donc tout ce qui nous mène vers des utopies plus heureuses, plus joyeuses, plus égalitaires.
C'est grâce à la science et aux sciences sociales et humaines, mais aussi à l'histoire, par exemple, qu'Emilia Roig, qui est politologue, peut décrypter les systèmes d'oppression et de domination qui traversent notre société. Cette berlinoise d'adoption, en tout cas c'est la ville qu'elle a choisi d'habiter il y a une vingtaine d'années déjà, travaille notamment sur l'intersectionnalité et la justice sociale. Dans son livre « L'envers du monde, défaire les dominations, repenser la justice », paru il y a peu aux éditions hors d'atteinte, Emilia Roig décrypte des mécanismes qu'on préférerait ne pas voir et qui pourtant sont bien ancrés dans nos vies. C'est un vaste programme de nous proposer à nous, lecteurs, lectrices, de réaliser les dominations systémiques qui gangrènent nos sociétés et de nous proposer de les défaire.
Alors en fait, l'objectif, c'était pas d'arriver avec une solution et de changer le monde, en fait. L'idée, c'était d'exposer ce qui est souvent caché et dissimulé derrière un discours qui nous fait accepter et légitimer l'injustice qui nous entoure. Donc en fait, moi, c'était vraiment de montrer comment ces injustices, comment ces inégalités, elles se manifestent, elles se matérialisent dans notre vie de tous les jours, dans tous les aspects de notre vie, donc à la maison, au travail, dans les médias, à l'école. Et c'était le but. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était quelque chose qui bouillonnait en moi. En fait, je me rendais compte que j'avais envie de faire voir les choses aux autres et que très souvent, c'était un petit peu une posture non sollicitée. Donc, j'essayais toujours un petit peu comme une croisade, d'essayer surtout autour de moi, dans ma famille. Donc, j'essayais souvent de parler de, voilà, regarde l'oppression, le patriarcat, le racisme, etc. Et je me suis dit, non, en fait, le mettre dans un livre, c'est vraiment une posture un petit peu plus douce où je n'impose rien. En fait, je montre mon regard et puis les gens qui sont intéressés peuvent aller chercher le livre.
We're looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. Nigga, you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo, a win-win, come again. Rims and his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they offend, popping yang.
Like you got yang.
Let's not pretend. The one that pack pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face, man. Claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick job asking them stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? Within. How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, come again.
Petite blanche dans du poil sous les bras.
Dans la première partie de cette émission, Emmanuel Pérez-Tisserand nous parlait de l'appauvrissement de la langue comme outil des régimes autoritaires. En écho, Emilia Roig cite dans son livre une journaliste germano-turque, Kübra Gümüşay, qui a écrit dans son livre « Langue et être », pardon de ne pas vous donner le titre en allemand, mais je n'ai jamais appris à lire correctement l'allemand. Donc dans son livre « Langue et être », elle décrit les effets des mots qui n'existent pas. Je cite « Ainsi, les gens restent sans voix et sans pouvoir face à une injustice qui n'a pas encore été exprimée. L'intérêt du livre d'Emilia Roig est de mettre des mots, de visibiliser et de faire exister une réalité et de combattre le sentiment d'impuissance. Et cette réalité, c'est la sienne d'abord, et la nôtre aussi, puisque nous faisons tous et toutes partie du problème. Peut-on d'ailleurs se dire que non, qu'on ne fait pas partie de ce grand tout-là, de cette société qui contient oppresseurs ou oppressés ?
Bah, on ne pourra jamais enlever que je ne suis pas blanche, par exemple. Donc, même si je n'ai pas de handicap, même si voilà, je ne suis pas une personne trans, donc je suis une personne cis, même si bon, voilà, tous les axes sur lesquels je suis privilégiée, par exemple, il y a d'autres axes qui vont pas annuler. C'est-à-dire que les discriminations, l'oppression, ça ne s'annule pas. C'est juste que je pense que c'est important justement de penser en termes d'articulation. Ils s'articulent entre eux. Et donc, je pense que c'est important justement de ne pas essentialiser ou alors de ne pas réduire toute une personne à une identité. Par exemple, une personne qui dirait, voilà, moi, je suis femme, donc je suis discriminée, et se focaliser totalement sur cet angle-là, mais sans voir que cette personne est riche, que cette personne est blanche, que cette personne est hétéro, etc. Donc, c'est pour ça. Après, je vois les identités aussi comme... des grilles d'analyse, donc c'est pas forcément des catégories auxquelles on doit s'attacher et s'ancrer et surtout s'identifier constamment, parce qu'en fait elles sont avouées à disparaître dans un monde sans oppression. C'est pour ça, alors il y a des gens qui vont dire par exemple, ah non mais moi je vois pas la couleur de peau, pour moi on est tous humains, les couleurs de peau n'existent pas. Donc ça c'est une posture hyper problématique parce qu'on n'en est pas là. Mais le but ultime, c'est de faire disparaître ces catégories. Et pour l'instant, tant qu'elles n'ont pas disparu, on doit les utiliser comme grille d'analyse, comme grille de compréhension, une des grilles de compréhension du monde. Pas l'unique grille de compréhension, mais une d'entre elles qui est importante à mon sens.
Dans son livre, Emilia Roig parle aussi du patriarcat qui se glisse dans les gestes anodins, les répartitions naturelles, les silences et les habitudes. Un patriarcat qui se niche dans l'inconscient et les réflexes acquis dès l'enfance. Mais à côté du patriarcat, d'autres systèmes d'oppression existent et ils sont tous liés. C'est de là qu'est partie l'idée d'écrire ce livre.
Alors, en fait, il découle des trois systèmes d'oppression majeurs, en fait, qui ont, bien sûr, des sous-types de systèmes. C'est le capitalisme, le patriarcat et le racisme. Et donc, dans le racisme, ça englobe le colonialisme, l'impérialisme, etc. Et donc, ces trois types, ces trois grands systèmes d'oppression, ils créent des hiérarchies, en fait. Ou alors, ils créent des hiérarchies et ils se nourrissent de ces hiérarchies. Et du coup, c'est pas que c'est infini, parce que souvent, on va entendre aussi une critique de l'intersectionnalité. Donc, l'intersectionnalité, c'est un terme, justement, qui permet de comprendre les discriminations, justement, dans leur complexité, en regardant pas seulement la question du genre, mais aussi la question du racisme, la question du classisme, etc. En fait, on va dire, oui, mais c'est infini, il y a tellement de discriminations, ça peut être tout, voilà, moi, je peux être discriminée parce que j'aime les chiens au lieu des chats. Bah non, en fait. Donc, on va toujours regarder seulement les types de discrimination qui sont basés sur une hiérarchie. C'est-à-dire, est-ce que, voilà, donc par exemple, je vais dire, bah, moi, une partie de mon identité, c'est d'adorer le jaune et d'aimer la randonnée. Est-ce que ces différences-là, ça peut être la base d'une discrimination ? Bah non, parce que, en fait, on ne trouve pas dans les sphères de pouvoir seulement des personnes dont la couleur préférée est le bleu, ou alors seulement des personnes qui détestent randonner. Donc, en fait, il faut toujours savoir, est-ce que c'est une identité qui donne accès à une forme de pouvoir sociétal ? Est-ce que cette identité-là, elle est la base d'une hiérarchie ? Si oui, dans ce cas, on va en parler, et c'est pertinent. Et sinon, bah non, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est pas infini. En fait, on peut les délimiter de manière assez réduite. Donc, je dirais qu'il y a le genre, l'orientation sexuelle, la classe sociale, le handicap ou non. Il y a la géographie, il y a les accents, le langage, il y a la corpulence. Voilà, j'en oublie peut-être un ou deux. Là, bon, la religion, mais ça se rattache aussi à la notion de race, parce que les religions sont racisées. C'est-à-dire que si une religion n'est pas racisée, en général, elle ne va pas être hiérarchisée. Donc voilà, en fait, on va toujours regarder voilà, cette différence. Voilà, il peut y avoir une différence, donc aimer le bleu ou le jaune. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre ces deux différences ? S'il n'y a pas de hiérarchie, c'est pas pertinent.
Alors moi, dans presque toutes les émissions, j'ai envie de demander à mes invités, mais comment on fait alors ? Comment on résiste ? Et puis surtout, par où on commence ? Parce que si tout est lié, eh bien on peut vite être un peu perdu avec tout ça.
Alors, bah déjà, on n'est pas obligé de tout gérer en même temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien, par exemple, se focaliser sur le validisme et se dire, voilà, moi, c'est vraiment mon axe. Je combats le validisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, justement, avoir un axe privilégié dans lequel on va... Enfin, privilégié, c'est un mauvais choix de mot, mais dans lequel on va vraiment focaliser toute son attention. Et en attendant, c'est important, en le faisant, de savoir qu'il y a d'autres forces qui vont aussi impacter. Par exemple, si on s'occupe de validisme, il va falloir aussi comment ça impacte les personnes, par exemple, handicapées, qui sont aussi noires, qui sont aussi trans, qui sont peut-être aussi sans domicile, etc., sans papier. Enfin, voilà, donc c'est pour ça, c'est toujours avoir une grille d'analyse qui va prendre en compte d'autres axes de discrimination. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, ça devient quand même plus faisable. C'est pareil dans le féminisme, en fait. On ne dit pas, voilà, il ne faut plus être féministe uniquement, il faut être aussi antiraciste tout de suite. Non, on peut aussi rester principalement féministe, mais toujours avoir une grille de lecture et une grille d'analyse qui inclut, en fait, d'autres systèmes d'oppression.
Dans l'envers du monde, aux éditions Hors d'atteinte, Emilia Roig parle des feux qui régulent la circulation. Elle dit, en somme, que dans la plupart des pays, ces feux ont été conçus comme des aides à l'évaluation personnelle, et non pas comme des commandements divins. Aujourd'hui, moi la première, j'agis souvent plutôt comme une automate, j'obéis mécaniquement parfois. Alors qu'il est sûrement moins dangereux de traverser au rouge quand aucune voiture n'est à l'horizon, que de traverser au vert quand une voiture arrive un peu vite. Pour changer le monde, il faut qu'on garde notre libre arbitre, notre capacité à analyser les situations et bien sûr une capacité à ne pas obéir bêtement. Il faut donc que nous renforcions la capacité de chacun et chacune à avoir cette pensée critique. Rien ne sert d'essayer de convaincre, il faut donner des outils de compréhension du monde.
Alors déjà, ma posture, moi, c'est jamais de convaincre les gens, même si ça l'a été dans le passé. Mais là, maintenant, vraiment, j'ai passé un cap. C'est plus du tout mon but de convaincre. En fait, je vais poser une pensée. Et en fait, je sais que cette pensée, elle va trouver les personnes. Et les personnes vont trouver, il y a une forme d'attraction qui va se passer. Et en fait, les gens qui vont en bénéficier et en même temps qui vont nourrir aussi cette pensée, ce courant, ces mouvements, vont se trouver. C'est-à-dire que très souvent, on fait l'erreur dans les mouvements de libération, donc que ce soit le féminisme ou l'antiracisme, ou enfin voilà, tous ces mouvements de libération, on fait l'erreur d'essayer de convaincre à tout prix les dominants. Et moi, je parle vraiment de dominant-dominé, c'est factuel, c'est une position politique, économique, culturelle, factuelle en fait. Il n'y a même pas de jugement là-dessus, c'est voilà. Et donc... Donc essayez toujours dans une position de dominer, donc on va dire voilà, si moi en tant que lesbienne j'essaie de convaincre les hétéros que être lesbienne c'est pas une tare, on va dire voilà pour être très simpliste, je vais en fait diriger toute mon attention encore à nourrir une sorte de reconnaissance. Essayer donc par ça, en fait, d'être reconnue dans ce que je suis, en essayant de convaincre justement ce groupe de dominants que, voilà, c'est un thème qui vaut le coup d'être discuté, etc. C'est pareil pour, voilà, en tant que métisse, moi, si j'essaye de toujours parler du racisme aux blancs en leur disant « Non, mais c'est hyper important, il faut absolument que tu comprennes, etc. » Et en fait, à la place de faire ça, je pense que c'est important de rediriger notre regard et notre énergie vers, voilà, comment veut-on que le monde évolue ? À la place du racisme, qu'est-ce qu'il devrait y avoir ? À la place du patriarcat, qu'est-ce qu'il devrait y avoir ? À quoi doit ressembler notre société sans patriarcat, sans racisme, etc. Et en fait, toute l'énergie qu'on met à essayer de convaincre les dominants, eh ben, on ne l'utilise pas justement à créer ce nouveau monde et à le visualiser et aussi à le partager avec d'autres personnes qui sont affectées par les mêmes systèmes. Après, je ne dis pas que ce n'est pas important d'essayer justement d'atteindre un plus grand nombre de personnes, et c'est ce que j'ai fait avec le livre, mais d'une manière assez passive, je dirais, entre guillemets, puisque voilà, je l'écris le livre, mais je vais forcer personne à aller l'acheter en librairie. Voilà. Et après, bah, dans l'argumentation, évidemment, voilà, les personnes qui sont prêtes à écouter, tout est là, en fait. Donc c'est quelque chose qui va de soi, en fait. Il n'y a pas besoin de force, en fait.
Et non, ne perdons pas nos forces à convaincre, nous dit Emilia Roig. Mettons de l'énergie dans l'amour. L'amour qui revient sous la plume de l'activiste américaine Sonia Rini Taylor, qui parle, je cite, d'un amour radical de soi. Il nous faut un amour radical de soi. Imaginez l'énergie libérée si nous parvenions à découpler l'amour de soi et des autres. Ce n'est pas un hasard si dans le monde d'Orwell, en 1984, l'amour est interdit. C'est une des cibles principales de tout pouvoir autoritaire. L'amour est politique, et subversif. Il est une arme face à la peur, une arme que manient notamment les marges de la société. Car c'est une force d'action et de transformation sociale, comme c'est écrit dans le moment orwellien. L'amour, rien qu'à lui, nous donne des raisons d'être optimiste et de garder espoir.
Pour moi, c'est pas la même chose parce que optimisme, c'est une posture qui s'explique parce qu'il y a des éléments objectifs qui nous montrent, par exemple, on voit le ciel, il y a plein de nuages et puis au bout d'un moment, on voit un petit coin de ciel bleu et là, on est optimiste parce qu'on dit « Ah, voilà, il risque de le temps va s'améliorer ». Mais si jamais le temps est complètement gris, que c'est le ciel est bloqué comme à Paris en hiver, et que je dis « À un moment donné, il va faire beau », ça relève de l'espoir. Et en fait, c'est cette posture que j'ai plutôt. Et donc, il y a 6 ans, quand j'ai écrit le livre, évidemment, on était dans une autre temporalité. C'était l'apogée du Black Lives Matter Movement, donc avec vraiment une émulation totale dans toute l'Europe, où on se disait, ça y est, c'est enfin le moment où on a une épiphanie collective. On va réussir à surmonter ce système du racisme qui nous enquiquine depuis des années, des décennies, même des siècles. Et aujourd'hui, on voit que le backlash est énorme. Et on s'y attendait pas. Enfin, je ne m'y attendais pas, en fait. Et je pense que beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas, que ce soit aussi violent et que ce soit aussi rapide. Donc, mais est-ce que ça veut dire que, pour autant, ce développement est annulé ? Non, pas du tout. En fait, c'est-à-dire que le progrès n'est pas linéaire. Et là où on se trouve aujourd'hui, c'est... c'est des remous qui se passent dans cette évolution, je dirais. Donc, le backlash, c'est aussi une indication qu'on est en phase de progrès. Sinon, il n'y aurait pas ce backlash, en fait. Il n'y aurait pas les masculinistes, il n'y aurait pas Trump et tous les partis populistes d'Europe si on n'avait pas fait d'énormes progrès. Après, c'est sûr que dans les institutions, on le voit à peine. C'est-à-dire que les personnes continuent de mourir en Méditerranée parce qu'ils ne sont pas secourus, parce qu'on a un régime de frontières extrêmement raciste et inhumain. Donc ces problèmes, ils perdurent et on continue d'être dans ces problématiques. Donc je dirais, sur le long terme, en fait, on a un développement où je pense qu'on est dans une phase de changement de paradigme. Mais pour qu'un paradigme aussi profond et aussi structurant que celui dans lequel on vit se périclite et puis ensuite disparaisse pour laisser place à un autre paradigme, ça met du temps, en fait. Et dans notre petite vie d'humain, on va peut-être pas le voir, mais ça veut pas dire que c'est pas en train d'évoluer dans le bon sens.
Ah oui, pardon, je ne vous avais pas expliqué que le livre d'Emilia Roig est sorti il y a 6 ans en Allemagne, mais ce n'est qu'en 2026 que la traduction française est enfin disponible grâce aux éditions Hors d'Atteinte. Et malheureusement, ce livre est toujours d'actualité car rien n'a beaucoup bougé, ou alors en pire peut-être. Non, je ne sombrerai pas dans le désespoir. D'abord, tant qu'il y a des poils, il y a de l'espoir, et des poils, mes invités en ont, comme vous et moi, j'imagine.
Alors mes poils, j'ai du poil sous les bras et en fait j'adore mes poils sous les bras et ça fait genre 10 ans que je les laisse pousser, que je me suis pas épilé les poils sous les bras. Il y a même une petite boucle en fait qui se crée de chaque côté parce que j'ai les cheveux bouclés. Et en fait c'est quelque chose qui, ça a été un tournant dans ma vie je crois, de justement pas seulement les accepter mais aussi les aimer en fait, de me dire c'est des poils, ils sont là pour une raison et je sais qu'on les déteste, qu'on nous apprend à les détester, les trouver sales, les moches et tout ce qu'on veut. Mais voilà, j'ai des poils aux jambes aussi. Ça, je suis un petit peu plus... Je dois peut-être les enlever une fois tous les 2 ans, de temps en temps, quand ça me prend. La dernière fois, j'étais au Brésil et en fait, j'étais un petit peu trop, self-conscious, comme on dit. les poils, je trouve ça intéressant et j'aime bien parce que c'est justement ce qui nous différencie des enfants et quand on essaie toujours de rendre les femmes le plus proche possible de l'enfant, en fait, c'est pas le cas et on a des poils et c'est très bien.
Mon rapport à mes poils, alors déjà mes poils de cheveux, j'avais les cheveux bouclés quand j'étais petite et c'était infernal à démêler, donc ces poils-là ils m'ont donné du fil à retordre si je puis dire, et j'ai jamais été trop une forcenée de me débarrasser de mes poils et je me sentais un peu en décalage d'ailleurs avec mes copines pour lesquelles c'était un centre d'intérêt assez fort à l'adolescence et je le comprenais pas trop. Après je suis passée par là, m'en débarrasser... Et puis là, j'avoue que je les laisse un peu vivre leur vie, personnellement. Ils existent. Les poils sous les bras, oui, bah, j'en ai. Je les garde en général. Ça m'arrive de les enlever un peu quand ils me tiennent chaud et qu'ils transpirent l'été, mais ça va, je les assume. Ils me dérangent pas trop.
Avant de se quitter, essayons de nous rappeler qu'il faut toujours refuser de laisser d'autres penser à notre place, refuser qu'on nous impose notre façon de penser, refuser que les gouvernants manipulent le réel. Luttons pour les savoirs, les idées et les liens qui nous unissent, des liens d'amour, des liens qui libèrent. Et comme il est écrit dans Le Moment Orwellien, refaisons d'Orwell une fiction. Make Orwell fiction again. Merci à mes invités de nous aider à résister. Même si les temps sont durs, nous sommes nombreux et nombreuses à continuer d'aimer et ça nous rend heureuses. À bientôt dans Du Poil Sous les Bras pour continuer d'écouter des mots qui ont du sens. En attendant la prochaine émission, écoutez, réécoutez, partagez Du Poil Sous les Bras. Vous le trouverez en ligne, en version podcast ou en version FM sur certains sites de radio.